travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Les Berbères nous ont donné Youssef Ben Tachfine, le guide incomparable issu de la famille des Sanahaja. Il fonda la dynastie des Almoravides, celle qui conquit l'Espagne.
Je me suis donné pour mission, il y a 15 ans, de sauver de l'oubli la tradition orale millénaire de mon pays d'origine, la Kabylie.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Régulièrement, et encore tout récemment, les nouvelles nous arrivent du Maroc de réactions vives ou violentes de la population berbère à la domination du pouvoir arabe, les nouvelles d'agitation portant de lourdes frustrations. Le roi Mohamed VI a inscrit officiellement au premier rang de ses priorités l'amélioration de la situation de cette minorité qui constitue plus d'un quart de ses sujets. En 2011, la langue des Berbères, le tamazight, est devenue langue officielle dans la constitution du royaume. Mais cela n'a pas du tout suffi à pacifier les esprits. Récemment encore, en janvier 2016, la mort d'un marchand de poissons, broyé dans une benne à ordures sous l'action de la police alors qu'il tentait de sauver sa marchandise, a mis en émotion tout le Rif, qui est la principale région berbère du pays. Les manifestations d'angoisse et de fierté se sont répétées régulièrement depuis lors. Tout se passe comme si la résistance d'un peuple acharné à n'être pas dominé était interminable. Une résistance plurimillénaire, souvent écrasée et quelquefois triomphante. Eh bien, c'est à cette histoire de très longue durée que nous allons nous attacher ce matin. Nous le ferons en élargissant naturellement notre curiosité aux autres peuplements de même souche et de culture proche. Car si les berbérophones seraient 13 millions au Maroc, ils seraient 10 millions en Algérie, principalement en Kabylie, mais aussi 5 millions chez les Touaregs, 200 000 en Tunisie et 600 000 en Libye. Ces chiffres, forcément approximatifs, disent assez les dimensions de cet enjeu humain, culturel et politique. Afin d'en mesurer la portée historique, les composantes et les couleurs, j'ai convié ce matin la compétence de Mehdi Guirgat, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, où il est directeur de la section d'arabe. À lui de nous éclairer.
Je vais bientôt avoir 50 ans. Déjà, ma petite tranche de vie, je l'ai vécue en tant que Kabyle, je l'ai vécue d'une façon tourmentée. Ce qu'on raconte de nos parents, de nos grands-parents, ça a été à peu près la même chose. Donc quand on vient vous dire que ce que vous parlez n'est rien, ce que vous parlez n'existe pas, vous devez parler de cette manière. Et on vous donne une autre langue, d'autres bagages que vous devez adopter. Et c'est ça, voilà la tourmente qu'on a vécue pendant assez longtemps. Bon, de révolte en révolte, de manif en manif, de revendication en revendication, on est arrivé à peu près à faire admettre le fait qu'on existe. C'est déjà pas mal.
La révolte, c'est 1980, par exemple, le printemps berbère.
Par exemple, oui, mais le printemps berbère, c'est le résultat de milliers de petites mini-révoltes dont on n'a jamais parlé. C'est des gens qui ont été jetés en prison, c'est des gens qui ont été exilés, c'est des gens qui ont... Bien avant ça. Et ça a donné Ça a donné 80. Ça a donné le printemps 80. Printemps 80, ça n'a pas été quelque chose de spontané. C'est la goutte qui a fait déborder le vase.
Mehdi Guergat, bonjour.
Bonjour, je dois jeûner.
Je viens de vous faire entendre une interview de Lounis Ait Mengelet, qui est un chanteur kabyle, dans l'émission « Surpris par la nuit » d'Alain Weinstein sur France Culture le 11 novembre 1999. Je l'ai choisi, ai-je besoin de le préciser, parce que il me paraît cet entretien marqué à la fois la frustration, la détermination, la longue durée d'une révolte, d'une série de révoltes et de protestations, ramassées en quelque sorte pour nos oreilles.
Oui, effectivement, le chanteur Ait Mengelet a affirmé avec force, exprime naturellement l'idée d'un irrédentisme berbère, c'est-à-dire que les berbères, en particulier les Kabyles ici, c'est plutôt de ça dont il s'agit, évidemment, ont cherché à résister au rouleau compresseur identitaire et politique qui, après l'indépendance de l'Algérie, a essayé d'imposer une langue, l'arabe, et une identité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pendant plus de 20 ans, eh bien, la composante berbérophone et le berbère d'une façon générale, en Algérie, était considérée comme une entrave à l'unité nationale. C'est pour cela que faire valoir le particularisme berbère, l'identité berbère, la culture et la langue berbère étaient évidemment très mal considéré, voire pas du tout pris en considération, pas du tout pris en compte par l'État algérien post-indépendance.
Nous y voilà. J'observe que vous dites berbère ou plutôt kabyle. Alors je crois que pour commencer notre conversation, il serait opportun que nous précisions les termes et en même temps la géographie, les habitats de ce monde ancien.
Alors, quand on parle de berbère, on renvoie tout à la fois à la langue, mais aussi à un peuple qui occupait un espace extrêmement large, depuis l'ouest de la vallée du Nil jusqu'aux îles Canaries, c'est-à-dire la totalité ou presque de la partie nord-ouest du continent africain. Et la langue berbère se décompose en plusieurs variantes, en plusieurs familles de langues, et on considère depuis le 19e siècle que le berbère est une constituante d'une grande famille de langues appelée chamito-sémitique. C'est le terme consacré. On a depuis les années 1960-1970 aussi d'autres théories qui ont vu le jour, les théories dites afro-asiatiques, qui décomposent les langues et qui essayent d'assimiler aux langues un berceau. C'est évidemment l'idée de trouver une origine aux différentes langues.
On a le sentiment que cette histoire est constamment entrelacée avec l'historiographie. Je veux dire que le regard posé sur ce passé prestigieux et parfois douloureux est marqué évidemment par la suite des événements, notamment depuis le 19e siècle. Mais dites-nous, Mehdi Guergat, quelle est l'origine du mot berbère ? On le sait ?
On subodore que berbère renverrait au mot que l'on retrouve chez les Grecs et ensuite chez les Romains, et plus tard repris par les Arabes, c'est-à-dire une langue qui n'en est pas vraiment une, qui est plutôt un baragouin, plus exactement un son émis par un animal. Alors d'aucuns affirment qu'il s'agit du son du corbeau, une sorte de croassement, ou du son émis, du rugissement plus exactement, par le lion.
C'est-à-dire... Donc on est près du mot barbare en fait ?
Absolument. C'est probablement la même origine, mais il convient de préciser que ce terme est un terme exogène, étranger en vérité aux berbères qui eux-mêmes ne s'appelaient pas ainsi.
Ils s'appellent homme libre en fait, c'est un mot berbère.
Alors le problème imaziren, donc les hommes libres ou les blancs dans le cadre d'une société servile où il fallait naturellement se distinguer des hommes de couleur, est un terme que l'on retrouve de ci, de là en Afrique du Nord, mais qui n'a probablement jamais, jusqu'à une période récente, servi à désigner la totalité des peuples autochtones de l'Afrique du Nord.
L'origine de ces débats est très ancienne. En fait, on s'appuie sur les écrits des historiens de langue grecque et de langue latine. Je pense à Polybe, je pense à Salluste.
Naturellement, vous ne trouverez pas, ou qu'avec la plus grande peine, de peuples ayant fait l'objet d'un débat aussi acharné sur leur origine. En effet, on a attribué aux Berbères, depuis Salluste et jusqu'à aujourd'hui, à vrai dire, toutes sortes d'origines, tout à la fois des origines proches ou moyen-orientales, des origines celtiques, germaniques, européennes d'une façon générale, ou plus récemment, dans le cadre des théories afro-asiatiques, une origine plutôt située dans l'est de l'Afrique.
Et quelle est la portée politique contemporaine de ce type de controverse ?
Alors, ce type de controverse ont pour but, je crois, d'établir une légitimité. C'est-à-dire que, évidemment, du temps de la colonisation, avancer une origine celtique ou germanique des populations berbères, c'était une façon de justifier, de légitimer l'occupation ou la domination française, c'est comme vous le voulez. Du temps d'Ibn Khaldoun, ou avant, du temps des généalogistes ou des polygraphes arabes, en donnant une origine yéménite ou cananéenne aux berbères, c'était là aussi une façon d'expliquer la domination culturelle et, dans une moindre mesure, politique des arabes, ou plus exactement des arabophones, sur des sociétés qui restaient encore, à ce moment-là, majoritairement berbérophones.
Et qui n'avaient pas de racines bibliques, je veux dire, vues par leurs adversaires.
Non, tout à fait, bien sûr, qui ont d'autres origines exogènes. En effet, le problème, plus spécifique aux sources arabes médiévales, c'est que les berbères n'étaient pas connus des débuts de l'islam, de la genèse de l'islam. C'est-à-dire que les Arabes, au moment des conquêtes arabo-musulmanes, c'est-à-dire au 7e et 8e siècle, connaissaient pour l'essentiel la Mésopotamie, la Syrie, l'Égypte et ce qu'on appelle le Fars, qui correspond plus ou moins à l'Occident de l'Iran, mais connaissaient totalement les réalités anthropologiques et linguistiques des populations d'Afrique du Nord.
Alors je voudrais, avant que nous allions plus avant, plutôt plus en arrière, je voudrais que vous nous précisiez quels sont les lieux où il y a actuellement des berbères, ou plutôt des berbérophones.
Alors, on identifie plusieurs blocs de population, mais les deux plus importants se trouvent d'une part au Maroc, dans le sud du Maroc, c'est l'aire de la langue qu'on appelle le Tachilhit, donc qui correspond au Haut Atlas et à l'Anti-Atlas, ainsi qu'à la vallée du Sousse. Donc c'est situé entre le sud de Marrakech et jusqu'aux limites septentrionales du Sahara. C'est un bloc tout à fait important de plusieurs millions de locuteurs, qui est sans doute l'une des aires berbérophones qui a le plus pesé, puisqu'elle a donné un certain nombre de personnes qui ont joué un rôle important dans les débuts de l'État marocain post-indépendance.
Et puis il y a le nord, le Rif.
Puis il y a évidemment le Rif, donc région là aussi berbérophone, et le Moyen Atlas, où on continue à pratiquer une langue berbère. Ensuite, vous avez l'Algérie. Là, on peut identifier principalement deux blocs, que sont les Kabyles, qui est la minorité berbérophone la plus importante d'Algérie, donc qui correspond aux montagnes.
Du côté oriental de l'Algérie.
C'est ça, ça correspond, si vous voulez, à l'est d'Alger. Traditionnellement, on sépare Petite Kabylie autour de la ville portuaire de Bougie, Bjeya, Bgate, et la Grande Kabylie située autour de Tizi Ouzou. Ensuite, vous avez les Aurès, donc avec la minorité Chaoui, qui elle s'étend, grosso modo, depuis la frontière tunisienne jusque un peu plus loin à l'ouest, la région de Biskra, donc population qui vivait du pastoralisme et qui pratiquait une forme de nomadisme ou de semi-nomadisme.
Quand on considère une carte des berbérophones telles que celles que propose l'excellent numéro récent des collections de la revue L'Histoire, on a l'impression un peu d'une peau de léopard. C'est vrai aussi jusqu'à la Libye.
Oui, c'est vrai, puisque on trouve des minorités berbérophones jusqu'en Libye et récemment, au moment de la chute du régime de Kadhafi, des minorités berbérophones ont été sous les feux de l'actualité, puisque on les a vus évidemment prendre une part active à la guerre menée contre le régime libyen.
Il faut faire enfin un sort à ceux des Touaregs, qui sont également berbérophones, ils seraient 4 à 5 millions. Ces chiffres sont toujours un peu approximatifs.
On n'a pas de chiffres exacts, parce que évidemment tous les chiffres relatifs au recensement ont une portée politique et éventuellement polémique, Mais ce qu'on peut dire avec certitude, eh bien, c'est que les Touaregs sont une population située tout à la fois en Algérie, au Niger, au Mali et jusqu'au Burkina Faso et au nord du Nigeria. Hein, ce sont des populations qui ont plutôt eu tendance à être marginalisées au sein des États post-indépendance et on en a récemment beaucoup entendu parler au moment de l'intervention française en Libye en 2013 puisqu'ils ont pris une part active à la guerre menée contre notamment l'État central malien.
À ce point de notre propos, Mehdi Guirgad, je voudrais vous faire entendre pour... une ambiance. Je voudrais vous faire entendre une chanson du chanteur kabyle Idir de 1976 qui a été un succès considérable en Algérie, même au-delà des frontières de l'Algérie. Ça s'appelle Avava Inouva. Nous allons l'entendre et après vous me direz de quoi il s'agit.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors je ne sais pas, Mehdi Guirgad, comment on dit un tube en berbère, mais c'est incontestablement un grand succès que cette chanson de 1976 du chanteur Idir. De quoi nous parle-t-il ?
En fait, il évoque un conte qui est un des contes du folklore kabyle. Et évidemment, Idir a eu le nez creux, si je puis dire, a eu la bonne idée d'invoquer le folklore à un moment donné où la revendication berbère, à la fin des années 1970, prend de l'ampleur par le biais tout à la fois d'une expression culturelle portée par la chanson. Tout à l'heure, nous avons pu écouter le chanteur Aitmen Gellet, là c'est Idir, et par l'associatif, les associations, l'embryon de société civile forte active en Kabylie a permis une certaine forme de renaissance identitaire et politique, principalement en Kabylie à ce moment-là.
Les mythes, évidemment, fondateurs, le récit national ou les récits nationaux sont très anciens. Il faut s'attarder un instant. Nous avons évoqué Salluste et Polybe sur l'identité des Berbères s'enracinant depuis plus de 2000 ans. Massinissa et Jugurtha, nous apprenions ça dans nos manuels de latin.
Oui, ce sont de grands personnages, d'autant plus importants qu'ils ont servi au nationalisme, y compris au début de la revendication nationaliste portée principalement en Algérie autour des oulémas, mais aussi des personnages fondateurs du nationalisme.
Les oulémas, ce sont les savants de la religion islamique.
Mais aussi c'est le club fondé autour de Ben Badis, donc dans la ville de Constantine, qui ont joué un rôle décisif dans ce que je qualifierais moi de définition du périmètre de l'identitaire et du culturel avant de devenir, dans un second temps, une revendication politique.
Alors Massina, Jugurtha, c'est très commode, si je puis dire, des personnages emblématiques qui peuvent servir cette fierté collective. Rappelez-nous de quoi il s'agit.
Alors ce sont deux personnes qui sont devenues des rois, qui ont joué un rôle important au cours de ce qu'on appelle les guerres puniques, c'est-à-dire l'affrontement entre Carthage et Rome, et ont réussi à gagner une forme d'indépendance et se sont affirmés au détriment, pour Massinissa, au détriment de Carthage. Et ont joué le...
Et pour Jugurtha, au détriment de Rome.
Au détriment de Rome.
Ça s'est mal terminé. Mais rappelez-nous rapidement, Massinissa, c'est un personnage considérable qui a vécu très très longtemps.
C'est ça. Il commence, si je puis dire, sa carrière en tant qu'allié de Carthage avant de retourner son alliance et de s'allier avec les Romains et avec Scipion l'Africain, le fameux Scipion l'Africain. Et à ce titre-là, eh bien, il va contribuer à la défaite de Carthage au cours de la Deuxième Guerre Punique.
Il vit entre 238 et 148 avant
Jésus-Christ.
C'est
ça, il a vécu très vieux. Et on peut dire que au moment de la déconfiture et de la défaite de Carthage, il se taille un royaume très étendu depuis ce qui est aujourd'hui les confins algéro-marocains, autour du fleuve Moulouya, jusque pratiquement un territoire situé non loin à l'ouest de Tunis. Donc évidemment, de l'actuelle Tunisie.
Mais il a une triple culture en fait.
C'est ça, tout à la fois il est l'adversaire de Carthage et des Puniques, mais lui-même est plutôt de culture punique. Mais en même temps, il connaît très certainement le grec. Sa langue est aussi ce qu'on appelle le libique étant la forme antique du berbère. Et évidemment, il a sans doute eu l'occasion d'apprendre probablement le latin, ce qui est moins sûr naturellement.
Donc ça, c'est l'allié des Romains qui réussit à régner longtemps et à créer pour la première fois sur ces terres occidentales de l'Afrique un large royaume qui va jusqu'où ?
Qui va donc à peu près jusqu'aux confins algéro-marocains actuels, grosso modo à l'ouest.
Et son successeur, l'autre personnalité emblématique que l'on connaît par Salluste, c'est Jugurtha qui, lui, s'affronte aux Romains et qui a pu d'ailleurs, dans les années 1970, apparaître comme une sorte de précurseur de l'anticolonialisme. Il y a une belle thèse importante de Marcel Benabou sur ses résistances. Qui est très marqué par ce temps-là.
Tout à fait. Alors, Jugurtha, c'est le petit-fils de Massinissa, hein, c'est le continuateur. Et le problème, si vous voulez, pour eux, c'est que Rome a plutôt tendance, en général, à annexer les royaumes vassaux. Hein, c'est-à-dire que, dans un premier temps, ils ont eu besoin de l'aide et du concours prêté par les rois numides, que sont donc Massinissa et Jugurtha. Hein. Mais dans un second temps, évidemment, Rome n'a sans doute plus eu besoin de leurs services et les a complètement annihilés. Bien après, donc au siècle dernier, au XXe siècle, eh bien, Jugurtha a pu apparaître comme un héros d'une forme anti-impérialisme. Bien sûr, c'est un anachronisme, hein, bien entendu. Mais évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que Jugurtha symbolise cette lutte dans la mesure où il a été valorisé par les sources latines et plus tard à la Renaissance et jusqu'à la culture des élites lettrées en Europe.
Et on est sensible au fait qu'un personnage considérable comme Jean Amrouche, qui est un kabyle qui a développé une brillante carrière littéraire, c'est lui qui a interviewé pour la radio Claudel et d'autres, que Jean Amrouche parle de Jugurtha de la manière suivante, tel qu'il est immortalisé par Salluste, il s'applique à différer de lui-même jusqu'à la plus complète contradiction. Nul, plus que lui, n'est habile à revêtir la livrée d'autrui. Mœurs, langage, croyances. Il les adopte tour à tour, il s'y plaît, il y respire à l'aise. Il en oublie ce qu'il est jusqu'à n'être plus que ce qu'il est devenu. Jugurtha s'adapte à toutes les conditions, il s'est accoquiné avec tous les conquérants. C'est naturellement le mythe de Jugurtha dont il s'agit, c'est pas Jugurtha lui-même. Il a parlé le punique, le latin, le grec, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le français, négligeant de fixer par l'écriture sa propre langue. Il a adoré, avec la même passion intransigeante, tous les dieux. Il semblerait donc qu'il fût facile de le conquérir tout à fait. Mais à l'instant même où la conquête semblait achevée, Jugurtha, s'éveillant à lui-même, échappe à qui se flattait d'une ferme prise. Jolie définition de la destinée posthume d'un personnage qui, d'une certaine façon, devient attrape-tout.
Oui, d'abord, on ne peut que saluer, évidemment, le brio avec lequel Jean Amrouche manie le français, hein, évidemment. Et on peut remarquer, chez Jean Amrouche, cette volonté de reprendre à son compte les personnages du passé et tout particulièrement les personnages de l'Antiquité, évidemment, qui lui permettent de faire état de la situation un peu présente de l'Algérie et essayer de signifier que naturellement l'histoire de l'Algérie ne débute pas avec la conquête française et le débarquement des troupes françaises en 1830, mais bien avant et prend racine dans une histoire aussi longue et aussi glorieuse naturellement que la France. C'est un peu de ça, je crois, le propos que l'on peut discerner chez Jean Amrouche.
C'est pourquoi cette émission, Mehdi Guergat, qui est consacrée aux résistances berbères, devait évidemment s'enraciner loin en arrière. Réalité et mythe, bien sûr, vérité historique s'il y en est, et manière dont elles ont servi. Elles ont été un magnifique magasin pour toutes les passions ultérieures et tous les combats qui ont suivi. Et à ce point de notre échange, il faut dire un mot, même bref, d'une personnalité également mythique qui a beaucoup servi aux combats ultérieurs, c'est Caïna.
Alors Lacaïna est un personnage conceptuel, c'est une femme qui sans doute exerçait un rôle de pouvoir, hein, une sorte de prééminence chez les berbères, autour des Aurès. Hein. Nous sommes là dans le massif des Aurès.
Une sorte de Jeanne d'Arc des berbères.
C'est ça, c'est un personnage qui symbolise la résistance acharnée des peuples d'Afrique du Nord, donc des berbères, face aux Arabes. Parce que, évidemment, l'Afrique du Nord est de toutes les conquêtes arabo-musulmanes la plus difficile et celle qui s'étend dans la plus longue durée, puisque on estime que généralement cette conquête a mis plus d'un demi-siècle à s'imposer.
Reine prestigieuse qui, pendant quelques temps, très peu de temps, quelques années, règne et qui finit la tête coupée.
C'est ça, puisque finalement, les Arabes arrivent à avoir l'avantage sur elle, mais néanmoins, ses fils rejoignent les camps, le camp arabo-musulman. Et ce que je veux dire, c'est que certainement, on ne sait pas grand-chose sur elle, mais toujours est-il qu'elle représente le fait que les berbères se distinguent des Arabes en ceci qu'une grande partie des sociétés berbères étaient sans doute des sociétés matrilinéaires, c'est-à-dire des sociétés où le lignage se fait par la mère et vous portez le nom de votre mère et non pas de votre père.
Donc les femmes ont toujours eu dans la société berbérophone une plus large place que dans la société arabe, on peut dire ça ?
Non. Oui et non. Oui, c'est un élément fort de distinction entre arabe et berbère, mais rien n'indique que cela ait été le cas pour la totalité de l'Afrique du Nord. Mais toujours est-il que chez les populations Touareg, pendant très longtemps, autant que l'on puisse le dire, c'est naturellement le cas.
Un mot de la religion des berbères. car ils ont été, semble-t-il, assez longtemps polythéistes. Ils ont même apparemment développé le culte du bélier, du taureau ou du serpent avant d'être islamisés. Ce qui pose d'ailleurs la question de l'arabisation et de l'islamisation. En vous lisant, j'ai constaté qu'on avait souvent tort de mélanger l'une et l'autre.
Alors, ce sont deux processus disjoints, en vérité. Vous avez nombre de régions dans ce que l'on considère le monde musulman actuel où l'arabisation a précédé l'islamisation. C'est notamment le cas, par exemple, d'Al-Andalus, donc la péninsule ibérique sous domination musulmane. En revanche, pour l'Afrique du Nord, pour le Maghreb, eh bien, l'islamisation a précédé l'arabisation. C'est-à-dire que les conquérants arabo-musulmans qui commencent à arriver vers les années 647, eh bien, se sont confrontés en Afrique du Nord à une résistance acharnée et ils ont été, plus qu'ailleurs, mis en difficulté. Alors pourquoi ? Parce que, autant quand les conquérants arabo-musulmans sont confrontés à des empires, eh bien, généralement, comment ça se passe? Il suffit de porter un coup terrible à l'empereur ou à ses troupes d'élite pour que toute la structure s'effondre. C'est notamment le cas de l'empire sassanide iranien.
D'ailleurs, Ibn Khaldoun en a fait la théorie de cet assaut extérieur aux pouvoirs en place.
Tout à fait. En revanche, dès que les conquérants arabo-musulmans sont confrontés à des sociétés tribales où les relations de pouvoir sont plutôt horizontales et où vous avez toutes sortes d'entités politico-militaires, eh bien, là, évidemment, le problème, c'est que l'on doit réduire les résistances les unes après les autres avec, bien souvent, quand vous avez soumis une région, eh bien, entre-temps, la région d'à côté s'est soulevée et, évidemment, dans ce genre de configuration, les troupes arabo-musulmanes sont peu à l'aise et naturellement elles sont mises dans l'obligation de faire appel à des locaux pour les seconder et pour leur prêter aide.
Ce sont exactement les mêmes stratégies qui s'imposeront, les mêmes difficultés qui s'imposeront aux colonisateurs européens à partir du 19e siècle. Mais ne brûlons pas les étapes. Écoutez donc cet extrait de l'histoire des Berbères d'Ibn Khaldoun, je prononce moins bien ce nom que vous, mais enfin on sait que c'était un grand historien, un grand intellectuel qui a vécu au tournant du 14e et du 15e siècle. C'est une lecture de Claude Berman dans La matinée des autres de Magali Morsi sur France Culture, le 30 janvier de l'an de grâce 1979.
Depuis les temps les plus anciens, les Berbères habitent le Maghreb, dont ils ont peuplé les plaines, les montagnes, les plateaux, les régions maritimes, les campagnes et les villes. Ils construisent leurs demeures soit de pierre et d'argile, soit de roseaux et broussailles, ou bien encore de toiles faites avec du crin ou du poil de chameau. Ceux d'entre les Berbères qui jouissent de la puissance et qui dominent les autres s'adonnent à la vie nomade et parcourent avec leurs troupeaux les pâturages auxquels un court voyage peut les amener. Jamais ils ne quittent l'intérieur du tel pour entrer dans les vastes plaines du désert. Ils gagnent leur vie à élever des moutons et des bœufs, se réservant ordinairement les chevaux pour la selle et pour la propagation de l'espèce. Une partie des Berbères nomades fait aussi métier d'élever des chameaux, se donnant ainsi une occupation qui est plutôt celle des Arabes. Les Berbères de la classe pauvre tirent leur subsistance du produit de leurs champs et des bestiaux qu'ils élèvent chez eux. Mais la haute classe, celle qui vit en nomade, parcourt le pays avec ses chameaux et toujours la lance en main. Elle s'occupe également à multiplier ses troupeaux et à dévaliser les voyageurs. Leurs habillements et presque tous leurs autres effets sont en laine. Ils s'enveloppent de vêtements rayés dont ils rejettent un des bouts sur l'épaule gauche. Et par-dessus tout, ils laissent flotter des burnous noirs. Ils vont en général la tête nue et de temps à autre, ils se la font raser. Leur langage est un idiome étranger, différent de tout autre. Circonstance qui leur a valu le nom de berbère.
Qu'est-ce que c'est le tel, Médig Vergat ?
C'est la région de Haut Plateau, principalement en Algérie.
Est-ce que ce texte de Ibn Khaldoun reste encore une référence ? Est-ce que la description qu'il fait vous convient, jeune historien du XXIe siècle ?
Oui, elle convient, mais il faut d'abord rappeler que Ibn Khaldoun a été constitué en autorité au XIXe siècle, un moment où il a été traduit en français une première fois par le baron de Slane sous le Second Empire.
Ah, c'est pas un hasard ça, le baron de Slane, oui.
Et donc,
parce que c'est un personnage qu'il a tiré en direction de cette histoire des Berbères, alors que son travail était beaucoup plus large.
C'est ça, il ambitionnait de produire un savoir encyclopédique sur la totalité du monde musulman. Et son travail, évidemment, est séparé en deux. D'une part, des prolégomènes, Muqaddima, et ensuite une chronique qui se voulait retracer la totalité de cette histoire. Mais au XIXe siècle, étant donné que la France ambitionne de faire la conquête du Maghreb central, donc qui devient Algérie, eh bien, la partie la plus utile de l'œuvre d'Ibn Khaldoun, c'est naturellement la partie qui concerne l'histoire, le passé de l'Afrique du Nord, comme dira plus tard Gautier. C'est pour cela qu'on est passé un continent. Émile Félix Gautier, donc, qui produit donc son Le passé de l'Afrique du Nord, qui est un pendant longtemps a été considéré comme un ouvrage important, considérable, et qui a fait autorité pendant pratiquement une bonne partie du siècle dernier. Évidemment, Ibn Khaldoun met l'accent, souligne le fait qu'il existe une unité, d'après lui, une unité dans le mode de vie des Berbères. C'est le mode de vie qui les caractérise, mais aussi la langue. La langue qui se distingue de l'arabe. Alors évidemment, le problème, c'est que Ibn Khaldoun étant citadin lui-même, on peut se demander qu'est-ce qu'il connaissait des sociétés berbères, de la langue berbère. On peut tenir pour sûr qu'il n'a jamais connu lui-même le berbère, même si on peut identifier dans son ouvrage environ une dizaine de termes berbères, mais qui généralement sont des termes qui ont trait au pouvoir et aux dynasties berbères, qui domine d'un point de vue politico-militaire cet ensemble pratiquement du 8e siècle jusqu'à l'époque où Ibn Khaldoun rédige son ouvrage, c'est-à-dire dans la seconde moitié du 14e.
Il comprenait les religions, le panthéisme originel des Berbères.
Il en a dit deux mots en reprenant les propos du géographe andalou El Bakri, et évidemment ce qu'il constate, c'est que pendant très longtemps ces Berbères se sont caractérisés par une forme plurireligieuse, dans la mesure où vous n'aviez pas d'empire capable d'imposer une seule religion, et vous trouviez donc des cultes païens, notamment le culte du bélier, qui va se maintenir très tard, puisqu'on en garde trace pratiquement jusqu'au XIe siècle, ce qui est sans doute sans commune mesure avec ce que l'on retrouve dans le reste du monde musulman, mais aussi d'autres cultes, sans doute le culte du taureau, peut-être présent dans le sud de la Tunisie actuelle et en Libye. De même que, il faut le dire, c'est que les conquêtes arabo-musulmanes, eh bien, on ne sait pas exactement où elles s'arrêtent, quel est le périmètre dominé par les troupes musulmanes, et attention, on le retrouve dans une histoire lointaine où le moteur de la guerre, c'est naturellement le butin, et c'est en proposant un horizon d'expansion à certaines troupes berbères, donc les berbères étant une population, aurait dit Gabriel Martinez Gros, des marges, périphériques, donc fortement militarisées, à faire la conquête de l'Andalus.
C'est là effectivement qu'il faut évoquer ces deux moments extrêmement brillants de l'histoire des berbères et des berbérophones, c'est-à-dire le temps des Almoravides et le temps des Almohades du 11e au 13e siècle, juste avant l'œuvre de Ibn Khaldoun. Je peux vous demander de façon ramassée de nous rappeler ce qui s'est passé et aussi de nous dire en quoi cette mémoire continue d'irriguer les émotions, les protestations, les fiertés des Berbères et des Kabyles d'aujourd'hui.
Alors, si vous voulez, d'abord, il faut préciser que contrairement au reste de ce qu'on appelle aujourd'hui le monde arabo-musulman, en 740, vous avez une révolte généralisée, dite révolte kharijite, qui constitue un événement fondamental au sens propre du terme. C'est-à-dire que la majorité du Maghreb, le Maghreb oriental, c'est-à-dire Tunisie à peu près excepté, va vivre désormais dans l'indépendance. Et donc vous n'avez pas une aristocratie militaire, une élite qui sert de modèle d'un point de vue linguistique, du point de vue religieux, au reste de la société, comme c'est par exemple le cas en Al-Andalus ou en Égypte. Alors, à partir du XIe siècle, vous avez un changement, compte tenu que ce qu'on appelle les routes de l'or, parce qu'il faut naturellement évoquer les relations extrêmement importantes avec l'Afrique subsaharienne, eh bien, ces routes de l'or vont avoir tendance à s'occidentaliser, à prendre un chemin de plus en plus occidental, Tout d'abord préciser que l'or utilisé en Europe, qui servira au démarrage économique de l'Europe entre les 11e et 12e siècles, provient pour l'essentiel des gisements aurifères situés dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Et donc ce sont les Berbères qui acheminent, qui transportent l'or jusqu'en Méditerranée. Et bien entendu, du coup, la vocation historique de ces Berbères, c'est de jouer un rôle de courroie de transmission entre, d'une part, l'Afrique subsaharienne productrice de l'or et l'Europe et le bassin méditerranéen d'une façon générale. Et c'est à ce moment-là précis que l'on voit émerger des pouvoirs forts, tout simplement parce qu'ils ont accès à des moyens substantiels que sont l'or, et ils frappent monnaie, et notamment c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les Almoravides. Alors les Almoravides sont originaires de ce qui est aujourd'hui le sud de la Mauritanie, hein, du Sénégal, et donc des régions très méridionales somme toute, et vont arriver à agglomérer des forces et à faire la conquête de la moitié occidentale du Maghreb jusqu'à peu près à Alger, et plus tard à intervenir directement en Al-Andalus sur l'invitation notamment du roi de Séville, et vont progressivement supplanter les roitelets andalous donc à la toute fin du XIe siècle, et à pratiquement arriver au piémont des Pyrénées, puisque leur pouvoir s'arrête après l'extension maximale de leur domination, s'arrête à peu près à Saragosse.
Marrakech est la capitale, elle a été fondée en 1070.
Alors Marrakech, donc, qui provient probablement, je dis bien probablement, de Mouriakouch, c'est-à-dire le pays de Dieu, hein, c'est la capitale des Almoravides, car elle a l'avantage d'être tout à la fois située au piémont, c'est-à-dire non loin des montagnes de l'Atlas, avec leur richesse agricole et minière, mais aussi située sur cet axe caravanier fondamental, stratégique, qui relie, donc j'ai dit, l'Afrique subsaharienne, les mondes sahariens, le Maghreb et la Méditerranée. Marrakech est tout à fait situé sur cet axe. Et évidemment, depuis Marrakech, vous pouvez rejoindre Fès et ensuite Ceuta, qui est à ce moment-là l'un des ports les plus importants du Maghreb.
Alors déclin ensuite des Almoravides, qui ont amené une double guerre en fait vers le nord et vers l'est. Et la seconde très brillante dynastie, qui va se porter justement dans la direction orientale plus loin que les Almoravides, ce sont les Almohades. Un mot sur les Almohades, Mehdi Guirgat.
Les Almohades sont et restent la seule dynastie qui a réussi à unifier la totalité du Maghreb, depuis la Cyrénaïque à l'est jusqu'à l'océan Atlantique à l'ouest, et également à prendre le contrôle de ce qui restait d'Al-Andalus, c'est-à-dire principalement Séville, Valence et Grenade pour l'essentiel. Alors les Almohades aussi vont prendre pour capitale Marrakech, et naturellement c'est un pouvoir d'essence maghrébine. Et ce qu'on ne sait pas, et ce que j'ai eu à cœur à mettre en avant et
expliquer, ce sont vos travaux, c'est votre thèse,
voilà, qui ont attiré toute mon attention, c'est que les Almohades ont, pour la première et sans doute la dernière fois, véritablement institutionnalisé la langue berbère, puisque le fondateur de cette dynastie, le fondateur, c'est Ibn Tumert, eh bien, a utilisé la langue berbère comme langue sacralisée, comme langue sacrée, sur un pied d'égalité avec l'arabe, hein, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut entendre de ci, de là, les différents pouvoirs du monde musulman ont cherché à rendre l'islam autochtone, c'est-à-dire compatible avec les réalités anthropologiques et politiques locales.
Donc, différence entre arabisation et islamisation. C'est aussi le temps d'un très grand brio intellectuel, le nom d'Averroès, par exemple, qui joue un grand rôle pour transmettre la civilisation grecque antique jusqu'en Europe, suffit à signifier cela.
Tout à fait, parce que les Almohades se sont montrés de remarquables mécènes et ont évidemment promu et aidé à l'essor des arts. On peut retenir par exemple comme monument la Giralda à Séville ou bien la Koutoubia à Marrakech, et évidemment ont aidé les personnalités les plus remarquables de leur temps, comme Ibn Tawfel, donc auteur d'un ouvrage tout à fait important qui est la première Robinsonade connue de l'histoire de la philosophie à l'époque médiévale, et Averroès naturellement. C'est pour cela qu'au XIXe siècle, Ernest Renan au cours de son cours fameux sur l'avéroïsme, a quelque part donné le signal, a donné l'impulsion d'un sorte de renouveau d'études portant tout à la fois sur l'histoire médiévale du Maghreb et sur les Almohades en particulier.
Mais Averroès n'était pas berbère.
Non, il était originaire d'Al-Andalus.
Tous ces événements et un certain déclin, évidemment, après la chute des Almohades, Mehdi Guirgat, se traduisent de façon langagière dans la carte linguistique de ces régions, ce qui est de grande importance pour aujourd'hui encore.
Oui, parce qu'on constate une corrélation entre la venue des Benu Hillel, donc qui sont des tribus bédouines qui proviennent de la Haute-Égypte et qui progressivement ont pris le contrôle d'une large partie du Maghreb. Et évidemment, là où vous avez une domination de ces tribus bédouines qui viennent sur l'invitation des différentes dynasties berbères, qui s'en servent pour récolter l'impôt, qui s'en servent également comme troupes.
Il y a également les Mérinides qui ont suivi les Almohades.
C'est ça, hein, au XIIIe siècle, hein, du XIIIe jusque pratiquement au XVe siècle, au XVe, XVIe siècle. Et donc, évidemment, par rapport à ça, les régions qui ont plutôt résisté à cette poussée des Arabes Benu Hillel sont plutôt des régions de montagne ou des régions pré-désertiques ou semi-arides. C'est là où, si vous voulez, le berbère s'est maintenu. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que même là où vous avez processus d'arabisation, eh bien, les populations arabisées procèdent également d'un substrat berbère. Car au fond, la très grande originalité de l'arabe maghrébin sur les autres variétés d'arabe, c'est que, évidemment, on fait intervenir des éléments berbères, hein, comme par exemple la non-différenciation, par exemple, au Maroc, entre dans la concordance des temps, l'importance du champ lexical berbère dans les différents parlers arabes du Maghreb. Et évidemment, plus vous allez à l'ouest, moins cette influence bédouine Benu Hillel se fait sentir.
Puisque vous parlez du Maroc, il reste que l'opposition des langues demeure souvent très vivante et pose des problèmes pour la société d'ensemble. Écoutez donc cette interview d'un linguiste. Il est donc propre à bien réfléchir sur ces choses. Un linguiste, Abdelkader Bezazi, qui évoque le temps de son école, quand il est descendu d'une école berbère vers une école arabophone. C'est un extrait de l'émission Appel d'air de Marie-Hélène Fressé sur France Culture, le 15 octobre 2003.
Dans cette nouvelle école, j'étais le seul petit berbère parmi les enfants de la classe qui étaient tous des arabophones. Le peu que je savais de l'arabe, c'est ce que j'ai appris à l'école, à Adrar. Donc en classe, dans la cour, en sortant de l'école ou en arrivant à l'école, il fallait parler en arabe parce que les enfants, mes camarades, ne parlent pas berbère. Et évidemment, très rapidement, ces enfants ont très bien compris que je venais d'à côté, c'est-à-dire à 3,5 km, que j'étais berbère, que je parlais mal l'arabe. Je me souviens, ça me vient à l'esprit, d'un détail qui a été aussi un choc avec le maître d'école. Dans un cours d'arabe, il nous faisait réciter un certain nombre de termes qui correspondaient sur le plan syntaxique à une certaine catégorie de grammaire de l'arabe. Et j'ai prononcé un terme, selon lui, je l'ai mal prononcé. Le terme, c'était « amsa ». Et je me souviens très bien que j'ai dit « amsa », pour lui, j'avais dit « massa ». Quand il m'a dit « non, tu as dit « massa », j'ai pris la parole pour dire « excusez-moi, j'ai dit « amsa ». Il n'était pas content. Et là, j'ai reçu donc un coup avec une règle sur la main. Là, le problème ne se pose pas, mais le plus grave, c'est qu'il m'a dit « toi, le berbère, qu'est-ce que tu connais à l'arabe ?» Donc, c'était pratiquement le choc. Et je crois que c'est ce qui m'a amené plutôt à ne plus m'intéresser à l'arabe classique, jusqu'à nos jours.
Voilà vraiment, voilà, me semble-t-il, Mehdi Guirgat, un témoignage de riche portée, non?
Oui, parce qu'il met en lumière le fait que, forcément, pour les jeunes maghrébins, l'école, le processus de scolarisation induit une violence compte tenu que la langue pratique à l'école n'est pas la langue maternelle. Que ce soit pour les jeunes arabophones, pour les jeunes berbérophones, l'arabe classique ou plus encore le français n'est pas la langue du quotidien, n'est pas la langue du vernaculaire Et naturellement, cela pose problème.
C'est ce qu'on appelle en termes savants la diglossie.
Oui, vous avez une diglossie systématique, sauf que le problème, c'est que dans le marché linguistique, une langue n'en vaut pas une autre, et les langues vernaculaires sont totalement méprisées, tout autant l'arabe maghrébin que le berbère, même si quand même il faut souligner le fait que oui, peut-être que le berbère est encore de toutes les langues celle qui est le plus méprisée par les élites tout à la fois au Maghreb et en Algérie.
Alors nous voilà pour finir au temps de la colonisation, le temps des résistances, presque les dernières, des berbères, puisque c'est notre sujet ce matin. On peut peut-être commencer par dire un mot de 1871, avec le moment où le Bachaga Mokrani fait trembler la France, lorsque la France a renoncé, sous l'impulsion des berbères, au beau mythe de Napoléon III, d'un royaume arabe.
Oui, 1871 est une date importante parce qu'elle signifie en fait l'écrasement de la toute dernière des grandes révoltes, donc qui est menée par Bachaga Mokrani. Donc qui
Bachaga, ça veut dire quoi?
Bachaga, ça signifie qu'il exerce un poste dans l'administration ottomane. C'est un terme d'origine osmanleu, hein, l'osmanleu étant la langue turque impériale. Donc Bachaga sont autant de termes qui font référence à l'ancienne administration ottomane et qui a ensuite été reprise par les autorités françaises. Les autorités françaises ayant cherché à s'appuyer toujours sur le substrat, sur le précédent ottoman.
Il est donc berbère, Mokrani.
Mokrani est berbère.
Après avoir été très proche de Napoléon III, il lui rend visite à Compiègne, il a fait beaucoup d'effets à cause de la manière dont il est vêtu. Après 71, il dirige une révolte qui se termine d'ailleurs pour lui mal, puisque finalement il reçoit une balle entre les deux yeux.
Oui, parce que d'une façon générale, pour les populations musulmanes bien d'Afrique du Nord, on s'accommode de la période française, des Français, parce qu'ils sont les plus forts. Mais évidemment, on attend généralement le moment opportun. C'est généralement teinté de croyances messianiques. On pense qu'un jour, un messianique viendra pour sauver les musulmans et chasser les Français définitivement d'Afrique du Nord. Le Mokrani procède de l'islam confrérique, hein, des très importantes confréries qui sont importantes parce qu'elles sont structurées en réseau. Et donc évidemment, au moment de la révolte, vous avez ces réseaux qui vont jouer à plein pour essayer d'établir un rapport de force en leur faveur. Et finalement, l'échec final et la très dure répression de Mokrani, puisque ses partisans seront exilés jusqu'à la très lointaine Nouvelle-Calédonie, où leurs descendants existent toujours et sont toujours bien présents.
Ils votent ces temps-ci.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit.
Le moment suivant... C'est celui de la guerre du Rif qui est essentiel, que mènent les Espagnols, puisqu'ils sont à ce moment-là présents au nord du Maroc, et bientôt les Français.
Alors c'est ça.
Années 20.
D'abord, il faut préciser que Français et Espagnols sont en lutte pour la domination du Maroc. Et dans ce cadre-là, c'est peu politiquement correct de le dire, mais vous me le permettrez.
Mais il existe courage.
Il existe une lutte par rifet interposé entre Français et Espagnols.
Pourquoi n'est-ce pas correct?
Parce que, évidemment, nos collègues ont plutôt tendance à vouloir une sorte d'entente cordiale avec l'Espagne. Et évidemment, tous les travaux qui visent à mettre en lumière le fait que Espagnols et Français ont été plongés dans une rivalité mortelle, tant dans le champ académique que politique que militaire, durant toute la première moitié du XXe siècle, sont voués aux gémonies. C'est extrêmement difficile de faire valoir.
Mais c'est à vous qui ça arrivera, pas à moi. Donc, la guerre du Rif, et puis, qui est également, finalement, une répression très dure, tant du côté espagnol que du côté français. Et puis ce fameux Dahir de 1930, dont on peut dire qu'il met le feu aux poudres et qui est important pour cette histoire des résistances berbères.
Tout à fait, parce que à ce moment-là, la France procède, en vertu du vieil adage du diviser pour mieux régner, elle a l'idée d'utiliser donc la minorité berbère pour diviser, en fait.
Alors que dit ce Dahir?
Ce Dahir, il donne un statut particulier aux berbères, aux berbérophones du Maroc. Et il va provoquer une suite de réactions en chaîne. Et généralement, il est considéré comme le début du nationalisme marocain, évidemment, qui entraîne une prise de conscience d'une partie de l'élite lettrée du pays, donc une élite faible d'un point de vue numérique, qui vont mener la lutte pour l'indépendance. D'un autre côté, le Dahir berbère a sans doute joué un rôle extrêmement négatif parce qu'il a eu tendance à faire accroire
que les Berbères constituent une sorte de cinquième colonne, seraient le cheval de Troie du colonialisme, ce qui n'est sans doute pas le cas.
On les a compromis. Il faut dire, mais cela est plus proche de nos mémoires, que pendant la guerre d'Algérie, les Kabyles en Algérie ont joué un rôle très important avec des personnalités comme Krim Belkacem ou comme Aït Ahmed, oui. Qui a été une figure importante.
C'est un fait que les tenants de la Toussaint Rouge et du FLN sont d'origine kabyle. Ben Ramdan, Krim Belkacem ou Hossein Aït Ahmed sont évidemment d'origine kabyle.
Et ils n'ont pas trouvé ensuite, dans la nouvelle Algérie, la place proportionnelle à leur rôle dans la guerre d'Algérie.
Non, parce que, évidemment, les États post-indépendance procèdent d'une vision jacobine, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un État, une religion, forcément l'islam, et une langue qui est l'arabe. Donc, dans ce processus d'islamisation et d'arabisation forcenée, mené par des instruments de l'État, en particulier l'école, naturellement, produit une certaine forme d'exclusion des minorités berbères. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ces minorités berbères, elles sont toujours d'ailleurs, situées dans les zones les plus périphériques. J'entends par périphériques les zones montagneuses, c'est-à-dire celles qui sont peu touchées, qui ont été peu touchées par les efforts de la colonisation pour moderniser le pays en termes d'infrastructures, mais également en termes d'éducation et de santé. Et dans ce cadre-là, les États post-indépendance aussi ont tendance à délaisser ces zones périphériques. Et la seule solution pour ces zones périphériques, c'est évidemment l'immigration. C'est
possible. Et aussi des révoltes régulières. On a parlé de 1980, les printemps berbères, mais ceci, c'est la proximité de notre actualité, quasiment. Et c'est là-dessus que nous allons terminer, si vous voulez bien. Mehdi Gwirgat.
Tout à fait. Juste ce qu'il faut dire, c'est que les États post-indépendance, l'Algérie, le Maroc, dès qu'ils ont tendance à chanceler, eh bien, donnent des gages aux Berbères. Mais rien ne dit encore que le Berbère puisse survivre au XXIe siècle. Ce sont des langues menacées, évidemment, par l'uniformisation linguistique qui est un processus à l'œuvre aujourd'hui au Maghreb.
Puisque ce processus continue, enfant du nationalisme ou de l'esprit de nationalité de l'Europe, vous avez raison de le dire, au XIXe siècle, les résistances ont probablement une carrière durable encore, une affaire à suivre. Merci d'être venu à ce micro. Je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à un livre important de Gabriel Camps, qui est l'initiateur de l'encyclopédie berbère, qui joue un très grand rôle dans l'attention portée à ces problèmes que nous avons évoqués ce matin. Gabriel Camps, Les Berbères, Mémoire et Identité, publié dans la collection Babel, c'est une réédition, chez Actes Sud en 2007, la première édition est de 1980. Je citerai aussi le livre d'Abdella Bounfour, Introduction à la littérature berbère, le tome 1 est de 1999, le tome 2 de 2005, aux éditions Peters. Et puis vous avez donné, avec Pascal Burezi, Mehdi Gwirgat, vous avez donné une histoire du Maghreb médiéval, 11e, 15e siècle, paru chez Armand Collin en 2013. Et puis vous nous préparez aussi quelque chose.
Alors je vais essayer d'achever un ouvrage consacré à l'utilisation par les nationalismes algériens et marocains du passé médiéval et tout particulièrement des Almohades.
Cette émission a été pleine effectivement de réflexions sur l'utilisation du passé, plus ou moins mythifié, au service des combats du présent. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés et, bien sûr, écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, vous avez vu ce que l'Espagne connaît aujourd'hui d'agitation mémorielle précisément. Eh bien, nous parlerons de Franco, la vallée des morts, l'Espagne devant sa mémoire avec Benoît Pellistrandi. Lundi matin, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire de notre cher Emmanuel Laurentin qui consacrera sa semaine au thème suivant, après 1918, l'ombre de la guerre. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et réalisée par Doria Zénine, avec Mayouen Le Géant à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Inès Barja pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque semaine, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.